C'était il y a tout juste 100 ans, la grippe espagnole a fait 5 fois plus de morts que la Première Guerre mondiale. Elle aurait même coûté la vie à Frédéric Trump, le grand-père de l'actuel président américain. Alors quand l'histoire bégaye, peut-on en tirer quelques enseignements? Nous voyons cela avec vous, Philippe Poirot, bonjour.
Bonjour.
Philippe, vous répondez toujours présent quand je vous propose un sujet. Soyez-en infiniment remercié. Je rappelle à ceux qui nous écoutent que vous êtes maître de conférence en histoire contemporaine à l'Université Jean Jaurès à Toulouse. Vous êtes également diacre pour le diocèse. Philippe, l'histoire se répète à ceci près que la grippe espagnole ne vient pas de Chine comme le coronavirus, mais en fait elle ne vient pas d'Espagne non plus.
Non. Effectivement, on l'appelle grippe espagnole parce que c'est la presse espagnole qui a lancé l'alerte en 1918 sur cette crise sanitaire. Mais à vrai dire, elle ne vient pas du tout d'Espagne. À vrai dire, il semblerait, même s'il y a évidemment des débats, qu'elle soit éventuellement partie peut-être des États-Unis, qu'elle ait pu être transportée par des soldats américains qui ont traversé l'Atlantique pour participer à la guerre sur le front français. Des historiens soulignent aussi d'ailleurs qu'elle a pu aussi apparaître dans des camps militaires ou des camps de travailleurs en France même. Par exemple, le camp d'Étaples, qui était un vaste camp hospitalier de soldats britanniques. De même, dernier mot, on l'appelait aussi la grippe anamique parce qu'on s'était aperçu en 1918 que beaucoup de travailleurs venus de l'Indochine française avait été atteinte. Donc, vous voyez, en tout cas, elle ne vient pas du tout ni d'Espagne ni de Chine.
Ni d'Espagne ni de Chine, en dépit de son nom de grippe espagnole. Alors, vous l'avez dit, hein, nous sommes en avril 1918, en pleine Première Guerre mondiale. Et je crois que c'est d'ailleurs dans les pays en guerre qu'elle fera le plus de victimes, cette grippe espagnole. Hein.
Oui, parce que en fait, elle a atteint quasiment le monde entier, y compris des pays qui étaient éloignés du conflit. Parce que ce qui s'est passé et qui explique justement ce phénomène, c'est que c'est un monde où l'on bouge énormément. Le monde de 1918-1919. D'abord parce que les troupes bougent, et y compris vers les empires coloniaux. Ce qui fait que, par exemple, quand vous avez eu des Européens qui, atteints par la grippe espagnole, sont partis vers l'Asie, par exemple, eh bien, la grippe s'est diffusée dans ces pays qui étaient pourtant très éloignés des fronts de guerre. Ce qui explique, par exemple, qu'en Inde, d'après l'administration britannique, il y aurait eu environ 18 à 20 millions de morts.
Avec un total qu'on évalue aujourd'hui à 50 millions de morts pour cette grippe espagnole dont nous parlons ce matin. Alors aujourd'hui, on est en pleine période de coronavirus. En France, des voix s'élèvent contre la gestion. Est-ce qu'à l'époque, la grippe espagnole était bien gérée en France? Peut-être que vous avez des indications même pour notre région. Quelles mesures ont été prises, Philippe Poirot?
À vrai dire, on s'en occupe beaucoup plus aujourd'hui de la pandémie qu'à l'époque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas véritablement une politique nationale menée contre la grippe espagnole. Les États s'en préoccupent relativement moins qu'aujourd'hui. Tout simplement parce que...
C'est la guerre.
C'est-à-dire que vous avez évoqué le mois d'avril 1918, c'est le début donc de l'épidémie. Mais au printemps 1918, qu'est-ce qui obsède les Français? C'est la dernière des grandes offensives allemandes à l'ouest. C'est-à-dire que au mois de mai-juin, les Allemands avancent en Artois, avancent vers Paris. Et donc, si vous voulez, pour l'opinion, la grippe espagnole n'est qu'un épiphénomène. Et je ne suis pas certain que les Français de 1918 aient pris l'ampleur du tout du phénomène. Et l'État français non plus. Mais ni l'État allemand, ni l'État austro-hongrois, et ainsi de suite. Par contre, c'est au niveau des pouvoirs régionales qu'on a pris quelques décisions. Par exemple, on parle beaucoup aujourd'hui du port du masque. Aux États-Unis, il y a eu des municipalités ou des États, comme l'État de New York ou la municipalité de Seattle, par exemple, qui a décidé d'imposer aux forces de l'ordre, aux administrations, le port du masque. Mais ce n'est pas une décision venant de l'État.
Alors, on imagine que le système de santé à l'époque était moins bon que celui d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez des indications là-dessus sur l'état des hôpitaux ?
Les œufs d'hôpitaux, oui. Alors, nombre d'historiens qui se sont penchés sur la question de la grippe espagnole disent qu'en fait, les hôpitaux en y entraient pour finir la vie et non pas pour être soignés. C'est-à-dire que c'était plutôt des lieux où l'on mourait, où la chance de sortir était relativement minime. D'autant plus que beaucoup de ces hôpitaux étaient aussi des hôpitaux militaires. Ce qui fait qu'en fait, vous pouviez avoir des personnes atteintes de la grippe qui entraient dans ces hôpitaux, et puis d'autres qui étaient, je dirais, blessées par les combats et qui venaient aussi également être soignées. Qui fait qu'en fait, les hôpitaux n'avaient malheureusement pas les moyens véritablement de soigner la grippe espagnole, d'où les pertes considérables, puisque vous évoquiez 50 millions de morts à l'échelle du monde, certaines vont même jusqu'à doubler ce nombre de morts, c'est-à-dire certaines vont jusqu'à 100 millions de morts. Donc en fait, les hôpitaux étaient plutôt des lieux où venaient décéder de très nombreuses personnes qui étaient, et là c'est une différence aussi par rapport à aujourd'hui, me semble-t-il, qui étaient plutôt jeunes. C'était des personnes entre 20 et 40 ans.
Effectivement. Oui. Effectivement, c'est une différence avec aujourd'hui. Alors cette grippe espagnole, vous dites, Philippe Faureau, elle est en concurrence avec la guerre dont on s'occupe davantage naturellement que de la grippe. Surtout que j'imagine qu'on ne veut pas dire à l'ennemi l'état dans lequel le pays se trouve, notamment d'un point de vue sanitaire, il y a de ça également ?
Oui, il y a sans doute de cela. Et même au-delà de ne pas le faire savoir à l'ennemi, il y a aussi le fait de ne pas trop effrayer l'opinion publique de son propre pays. C'est-à-dire que les États en guerre n'ont pas intérêt à mettre l'accent sur une crise sanitaire qui viendrait s'ajouter au côté anxiogène que peut avoir la guerre elle-même. Et ne pas oublier aussi que, une fois même que la guerre est finie, en novembre 1918, dans beaucoup d'autres pays que la France, elle se poursuit, par exemple, en Turquie ou même dans l'Est de l'Europe, où les combats, les phénomènes de guerre civile, par exemple, se multiplient du côté de la Pologne, des pays baltes, de la Russie. Et qui plus est, l'opinion publique va être ensuite très attentive, non pas forcément à la grippe espagnole, mais aux conférences de la paix. C'est-à-dire que 1919, qu'est-ce qui domine l'actualité ? Ce sont les grandes conférences, la grande conférence de Paris qui se réunit pour les traités de paix. Donc si vous voulez, tout le contexte fait que sans doute une bonne partie des contemporains n'ont pas pris l'ampleur du phénomène.
Mais les contemporains, les historiens, pardonnez-moi Philippe, non plus, puisque aujourd'hui on la ressort, cette grippe espagnole, on la ressort pour comparer notre sort et éventuellement le relativiser, mais cet épisode, on en parle très peu à l'époque, comme s'il y avait une espèce d'omerta, non ?
Oui, enfin, sur le moment, indéniablement, et puis ensuite, oui, elle a été relativement peu étudiée, même peu enseignée. Vous voyez, sans faire l'ancien combattant, si j'ose dire, mais mes professeurs au lycée, au collège, ne m'ont jamais évoqué la grippe espagnole.
Et pour quelle raison ? Quelque chose d'honteux ?
Mais parce que, non, mais je crois sincèrement que finalement, le contexte de la guerre a tout écrasé. C'est-à-dire que je crois que la guerre et la reconstruction du monde d'après-guerre a écrasé l'actualité, si j'ose dire. Et la grippe espagnole, finalement, est passée un peu dans l'oubli. Je pense que c'est cela, surtout.
Et alors, est-ce qu'on peut en tirer des enseignements de cette grippe espagnole pour la situation qu'on connaît aujourd'hui avec le coronavirus, masque mis à part ?
Oui. Je dirais que si je devais retenir quelque chose, c'est peut-être la question du confinement. Il est évident que le confinement n'a guère eu lieu à l'époque, parce que, comme vous l'expliquez, le contexte de la guerre fait que l'on a beaucoup bougé, et que même après la fin des combats, eh bien, on a continué à aller, par exemple, vers les colonies des divers coins du monde, et ce qui fait qu'elle s'est extrêmement répandue. Alors que, finalement, l'idée du confinement, c'est quelque chose, quand on regarde l'histoire, me semble-t-il, qui est capital. Parce que on s'aperçoit, par exemple, et si vous me permettez, je quitte un instant la grippe espagnole, mais on s'aperçoit que même dans l'Antiquité, certains auteurs soulignent que les personnes qui allaient voir les malades pouvaient eux-mêmes gravement tomber malades. Et je voudrais juste vous lire quelques lignes de Thucydide, qui dans sa guerre du Péloponnèse nous raconte la peste d'Athènes dans l'hiver 230-229. Et voici ce qu'il écrit. Ceux d'autre part qui approchaient des patients se voyaient mortellement atteints. Tel fut surtout le cas de Jean, qui voulant faire preuve de dévouement et estimant qu'il était de leur devoir de ne pas se ménager, rendait visite à leurs amis, alors que les membres des familles eux-mêmes, vaincus par la peur, ne leur rendaient plus visite. Donc voyez que nous dit Thucydide. Mais malheureusement, les gens les plus pleins d'abnégation, et je pense par exemple aujourd'hui à nos soignants, qui sont évidemment dans le devoir d'y aller, courent des risques parce qu'ils ne sont pas confinés.
Et Thucydide, pour rappel à nos auditeurs, on est au 4e siècle avant Jésus-Christ. Un grand merci Philippe Faureau pour ce grand détour par l'histoire. On était sur la grippe espagnole, ça nous a amené jusqu'à Thucydide avec sa peste d'Athènes dans la guerre du Péloponnèse. Un immense merci à vous pour ces éléments d'explication, Philippe. À bientôt.
Avec grand plaisir, Isabelle. Au revoir.